Je lis le texte sur lequel nous prêchons ce matin. Il s'agit de Luc, chapitre 11, versets 37 à 54. C'est affiché. Luc, chapitre 11. Je vous laisse trouver la référence, mais je lis dans la version du semeur. Vous vous souvenez qu'on fait une série de prédications sur Jésus, la façon dont il est avec ses contemporains, et on le regarde dans l'évangile de Luc. Pendant qu'il parlait, on parle de Jésus, là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas et il s'en étonna. Le Seigneur lui dit alors, « Vous, pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Fou que vous êtes! Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur et vous serez du même coup entièrement pur. Mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les plus petites herbes comme la menthe et la rue et sur le moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire, sans laisser le reste de côté. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues, vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques. Malheur à vous, vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale au regard et sur lesquelles on passe sans s'en douter. Là-dessus, un enseignant de la loi se mit à protester en disant « Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes, nous aussi. » Oui. Malheur à vous aussi, enseignant de la loi, lui répondit Jésus. Vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt. Malheur à vous parce que vous édifiez des monuments funéraires pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez clairement par là que vous approuvez ce que vos ancêtres ont fait. Eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est bien pour cela que Dieu, dans sa sagesse, a déclaré « Je leur enverrai des prophètes et des messagers, ils tueront les uns, ils persécuteront les autres. » C'est pourquoi les gens de notre temps auront à répondre du meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis le commencement du monde, depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie, assassiné entre l'autel du sacrifice et le temple. Oui, je vous l'assure, les hommes de notre temps auront à répondre de tous ces crimes. Malheur à vous, enseignants de la loi. Vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Quand Jésus fut sorti de la maison, les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnèrent contre lui et le harcelèrent de questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles, un motif d'accusation. Jusqu'ici, la parole de Dieu.
Ah, il m'agace, m'agace hein. Mais il prend pour qui? Voilà qu'on l'invite chez nous et en profite pour... Ah, vous êtes là.
Oui, je suis quelque peu agacé. Enfin, vous étiez là, vous avez entendu la même chose que moi, non? Mais au fait, je me présente, je m'appelle Lévi Ben Zaché. Comprenez mon agacement présent, je suis scribe et enseignant de la loi ici à Jérusalem. Vous-même, vous devez avoir entendu parler de ce Jésus. Il commence à faire grand bruit dans les environs. Je crois qu'il ne nous aime pas. Enfin, sans aller dans des conclusions dignes d'une cour de récré, il est clair que nous sommes en désaccord, lui et nous. À minima, j'aurais espéré un peu d'égard de la part de ce jeune trentenaire envers nous, serviteurs de l'Éternel et guides spirituels pour son peuple. Vous l'avez vu. Comme moi, alors que nous allions partager ce repas, il aurait été convenable que chacun réalise les ablutions habituelles avant le repas. L'hôte qui nous accueille, en cela fervent parisien, a, je crois avec raison, adressé quelques remarques à Jésus vis-à-vis de ses ablutions. Mais que n'avait-il pas fait ? Voilà qu'un raz-de-marée d'insultes a été déclenché. Premièrement, voici les pharisiens accusés, insultés d'être des hypocrites. Selon Jésus, ils prennent soin de nettoyer l'extérieur, mais pas l'intérieur de leur coupelle. Je ne suis pas dupe quand même, nous ne parlons pas de vaisselle ici. Jésus reproche l'hypocrisie des pharisiens qui, selon lui, ont trop à cœur de chercher comment respecter tous les principes que l'Éternel a donné à son serviteur Moïse afin d'établir la loi. Je veux croire que vous-même êtes au courant de combien il est difficile de respecter à la lettre tous ces commandements, toutes ces règles, et de rester ainsi pur autant que possible. Du coup, n'est-ce pas injuste de la part de Jésus de ne pas considérer tous les efforts que les pharisiens mettent en œuvre afin d'éviter de pécher. C'est le but de la loi, non ? De quel droit et par quelle autorité se permet-il d'accuser ses frères aussi soucieux de la loi de manquer la cible et d'être ainsi impur ? Méchant et voleur à l'intérieur d'eux-mêmes. Qui est-il pour juger les pensées des autres ? Peut-être se prend-il pour Dieu, capable de lire dans le cœur de l'homme ? Et si c'est le cas, c'est un blasphème devant l'Éternel. Voilà. C'est mon avis à chaud sur ce que je viens d'entendre. Toutefois, que Dieu me garde si je manque de sagesse, je vous avoue que les propos que tient Jésus sont, disons, tentants. Comme je vous l'ai rappelé, même moi, Lévi, enseignant de la loi, je vois les difficultés du respect à la lettre de tous les commandements de Dieu. Même si j'ai appris à les connaître tous par cœur, je dois reconnaître qu'au quotidien, la loi donnée par Moïse est un champ de chausse-trappe. Rester pur, sans péché du matin au soir, est difficile. Quand Jésus dit « Donnez plutôt à Dieu votre être intérieur et vous serez du même coup entièrement pur », sa proposition est alléchante. Terminez les sacrifices au temple. Oubliez les règles d'impureté à la maison, dans la société et même en cuisine. Il est évident que c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En étant pur de l'intérieur, le péché ne souillera pas l'extérieur de l'homme. Il reste donc une question. Et c'est là où l'argumentaire de Jésus est, à mon sens, un peu trop simpliste. Comment donner à Dieu son être intérieur ? J'ai bien lu la Torah, croyez-moi, et je n'ai rien vu de tel qui puisse expliquer comment faire cela. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Ça, c'était la première vague. Après avoir redit globalement la même chose en prenant l'exemple sur des dîmes, sur les herbes, sur les légumes, voilà qu'il critique les pharisiens aussi bien que nous, enseignants, sur la place qui nous est réservée dans les synagogues. Si j'étais mauvaise langue, je dirais que Jésus nous critique pour se faire notre égal aux yeux du peuple. Ce que Jésus ne comprend pas, c'est que nous sommes des modèles pour le peuple. Nous enseignons le peuple, nous sommes garants pour eux de leur connaissance de la Torah, de la parole de Dieu. Les gens ont besoin de voir que nous sommes importants afin que ce que nous leur enseignons soit crédible. La critique est facile de dire que nous sommes une cause d'impureté pour ceux qui nous prennent pour guide. Quelle insulte de dire que je suis une tombe sur qui l'on marche, une cause d'impureté pour les passants non avisés. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais parfait. Bien sûr que je sais que j'ai des défauts, mais les gens me regardent, ils m'observent. Est-ce de ma faute si le peuple a besoin d'exemples à suivre? L'homme est faible, et le temps des juges a montré qu'il est nécessaire que certains guident le reste du peuple. Suis-je un bon modèle à suivre? À condition de m'observer de loin, oui. De près, je crains que vous ne vous rendiez compte que je suis un homme comme les autres. Est-ce une surprise? Non, tous les hommes sont imparfaits. Je le suis aussi. Que voulez-vous? Il faut bien qu'il y ait des modèles pour les gens. Il faut qu'ils puissent suivre quelque chose ou quelqu'un, un exemple. Moi, je sais, et Dieu le sait. Il n'y a pas un homme qui soit digne d'être pris comme modèle. Nous le savons avec les pharisiens, mais c'est notre mission d'être ceux qui guident et qui montrent l'exemple. J'espère seulement que les gens m'observent de loin. Je tente de mon mieux d'être en apparence un bon exemple spirituel. Mais comme je le disais, personne n'est parfait. Et ce Jésus, est-il un bon modèle? Est-il aussi bon en lui-même qu'il en a l'air? Avec les pharisiens, nous n'attendons que le moment où il fera un faux pas et nous le coincerons. Lui qui se croit si parfait. Lui qui ose critiquer notre devoir d'exemple pour le peuple. Il y a bien une alternative qui puisse exister tout en évitant l'hypocrisie. Paraître aussi imparfait que je le suis réellement. Même si moi je pense que c'est un non-sens, ainsi chacun jugera si je peux être pris comme exemple sur telle ou telle chose. Je ne serai plus celui qui fera passer l'hypocrisie et l'injustice pour des valeurs dignes et respectables. Peut-être même que mes proches pourraient se rendre compte que j'accepte d'être imparfait et que je fais des efforts pour changer de l'intérieur. Peut-être. Simple utopie à mon goût. Pensez-vous vraiment que le peuple puisse reconnaître un faible comme guide spirituel? Pour les quelques-uns qui seraient suffisamment sages pour voir cela, oui. Oui, je serais un bon guide spirituel. Mais avec un tel comportement, je serais juste normal, comme tout le monde. Quelle tristesse. Je suis enseignant de la loi quand même. Je ne peux pas abandonner ce statut. Et d'ailleurs, en parlant de mon rôle, je n'ai pas aimé le rapprochement douteux que Jésus a fait quant à mes responsabilités sur le meurtre des prophètes des temps anciens. Serais-je responsable de la mort du prophète Zacharie? Est-il interdit de vouloir honorer celui qui parle de la part de Yahweh, sans pour autant se voir associé à ce meurtrier roi Joas? Où est la mauvaise intention de ma part que de trouver bon qu'un prophète puisse avoir un lieu de repos digne de ce nom? Cette attaque de Jésus ne tient pas. Elle n'a de sens que s'il se croit prophète et qu'il voit en nous ses persécuteurs. Oui, oui, nous cherchons à le faire taire. Je dois l'avouer, cela a trop duré. Il perd le peuple, il l'éloigne des enseignements que Moïse nous a donnés. Il est de notre devoir et de notre responsabilité pour le peuple que de prendre les mesures appropriées contre celui qui tient un discours aussi simpliste que le salut par la foi seule. Sur cela, je dois vous laisser, excusez-moi, nous avons une réunion avec les pharisiens pour discuter comment mettre fin à tout cela. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Ainsi se termine notre texte de ce matin, verset 54, et se conclut aussi cette narration d'un point de vue d'un enseignant de la loi qui était présent lorsque Jésus a insulté les pharisiens et les enseignants, du coup qui s'est vu insulter aussi. Dans toute cette partie de l'évangile de Luc, Jésus enseigne ses disciples, et par extension, il nous enseigne. Ici, dans notre texte, malgré les apparences, ce ne sont pas les pharisiens qu'il cherche à faire changer. Et ça, Eric nous l'a dit il y a 2 semaines, il me semble, Jésus est venu pour les malades, pas pour ceux qui se croient bien portants. Il faut lire ce texte en gardant en tête que l'objectif de Christ à ce moment de son ministère, c'était l'enseignement, c'était la préparation de ses disciples. Nous sommes la cible de cet enseignement et Jésus profite de la présence des pharisiens pour dire aux disciples 4 choses, donc à nous aussi. Première chose et premier reproche qu'il fait aux pharisiens et donc premier encouragement pour nous. Recherchez à être pur de l'intérieur. Pour cela, dépensez votre énergie dans votre relation à Dieu et non à respecter scrupuleusement les règles de la loi hébraïque ou de n'importe quelle règle que vous pourrez vous mettre pour dire « voilà, quelqu'un, je suis quelqu'un de bien ». C'est votre relation avec Dieu, par Christ, qui peut vous changer de l'intérieur. Si vous désirez faire ce qu'il faut dans votre vie chrétienne, commencez par la base, commencez par soigner votre relation avec Dieu. C'est par Christ que nous sommes au clair avec Dieu. Et ne cherchez pas un autre moyen qu'il en soit ainsi. Deuxième attaque de Jésus contre les pharisiens et deuxième enseignement pour ses disciples. Et non des moindres. Le bon chrétien en apparence est un mauvais modèle en réalité. Ne soyons pas si soucieux de paraître un chrétien au top niveau quand la réalité en est tout autre. Bien sûr que nous ne sommes pas des modèles parfaits. Seul Jésus l'est. Donc, donnons à voir aux autres ce que nous sommes réellement, à savoir des chrétiens qui galèrent à marcher dans les pas de Jésus et un pas de foi après l'autre. En cela, soyons par exemple fiers de nos faiblesses et acceptons avec humilité que Dieu les utilise. La troisième critique à l'encontre des enseignants de la loi nous rappelle que si nous sommes des disciples de Christ, notre mission est d'amener les personnes autour de nous à devenir disciples à leur tour. Vous savez, c'est la critique sur le temple, la mort de Zacharie, tout ça. Les enseignants, eux, se réservaient l'accès à la connaissance. Tout comme leurs ancêtres, ils ont cherché à faire taire celui qui parlait de la parole de Dieu. Ils ont tué Jésus, car son message n'était pas en leur faveur. Ils ont complètement raté leur rôle de guide spirituel pour le peuple de Dieu. Et nous, sommes-nous conscients de notre rôle autour de nous ? Est-ce que nous sommes des témoins visibles et audibles du message de Christ ? Et finalement, et je conclurai par ça, dans ce passage, par son attitude, Jésus nous donne du courage. Face à la plus grande opposition, il montre à ses disciples qu'il est possible de tenir ferme, de prendre appui sur la vérité biblique pour continuer d'annoncer que le cœur de l'homme est moche et que seul Jésus peut changer ça. C'est assurément un encouragement pour celui d'entre nous qui peine à avouer sa foi, qui est peut-être même moqué pour celle-ci. Cela peut arriver là où nous sommes, dans le plus banal des contextes, dans sa propre famille, auprès d'amis, au travail, avec ses plus proches collègues. Et je citerai Daniel au chapitre 10 de son livre éponyme. Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen.